Voilà, je suis là, ça me cherchait en bas, mais j'étais déjà là. Bon, vous allez bien? Alors, avant de commencer, je vous propose de regarder un petit clip, si... Voilà, si il veut bien, hein? Oh, formidable. Est-ce qu'on peut éteindre ici?
Visite du web, je vous propose un extrait d'un clip qui buzz grave en ce moment, Alors on danse de Stromae, au moins plus de 20 millions d'entrées. C'est parti.
Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, mais y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, la,
c'est vraiment la description d'une vie pourrie, d'une vie destroy. Quand il évoque les problèmes qui s'accumulent comme ça, ils s'accumulent toujours plus. Il dit, tu crois que ça s'arrête? Mais non, il y en a encore. Il n'y a pas d'espoir. Tout ira toujours de plus en plus mal. Et même la seule fois où il évoque qu'il pourrait y avoir une solution qui viendrait du ciel, elle s'évanouit puisqu'il prie en disant, alors tu pries pour que ça s'arrête. Mais finalement, il n'y a pas de suite, pas de réponse, pas d'échappatoire. C'est une vision de la vie et de soi-même qui est empreinte de désespoir. Ça ne peut conduire qu'à des comportements de fuite et même pire. Alors alors on danse, c'est un euphémisme. On ne parle pas de la danse, mais plutôt de toutes les activités, j'allais dire, périphériques autour. Et pour retrouver à la fin ce pauvre monsieur complètement pilot, certainement shooté, professionnellement tout à fait largué, tristement seul, c'est le pessimisme qui triomphe dans notre société postmoderne. Alors franchement, quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma joie », c'est bien plus porteur.
Eh bien, il y en a encore.
Et voilà, je crois que le contraste est. On peut peut-être, voilà, regarder si votre voisin s'est pas endormi pendant qu'il faisait nuit, s'il en a profité. Bon, il aurait fallu qu'il fasse vite. Hein. Mais oui, j'ai trouvé le contraste de cette chanson et des paroles de ce chant qui donc sur le web a été vu par, en tout cas sur le site sur lequel on l'a pris, il y avait eu 20 millions d'entrées. Et il passait à la radio, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit, écoute, j'ai entendu ça à la radio, c'est un truc qu'on entend tout le temps, mais c'est extraordinaire que des gens puissent peut-être pas se nourrir, mais en tout cas être imprégnés de choses aussi tristes. Hein. Alors du coup, j'ai été voir et j'ai dit, mais vraiment, c'est extraordinaire. Je pense pas qu'on puisse faire une proclamation plus tragique, plus triste, plus désespéré, plus dénué de tout espoir que ça. Il dit, dans la chanson, il dit, mais tu sais, quand il y a des catastrophes qui arrivent, t'inquiète pas, il y en aura d'autres derrière. Ne crois pas, tu crois que ça s'arrête? Non, il va y en avoir encore d'autres. Il y a pas de solution, tout ira plus mal encore. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on danse, on picole, on... Mais on se dit, mais c'est dingue, quoi, hein? Les gens vont continuer comme ça de... Et puis le clip est réaliste. C'est même pas comme si on essayait de faire croire aux gens qu'il y a quelque chose qui pourrait être une bonne autre solution, une bonne échappatoire. Vous voyez le gars lui-même, on le voit dans la réalisation, à la fin, il est complètement... Il y a un type qui le traîne, il a dû passer toute la nuit comme ça, il est même pas conscient, le type le prend, l'assoit, le remet sur sa chaise, devant son bureau. Bon, il est complètement... évidemment, il est complètement à out. Mais voilà, et puis c'est tout. C'est tout, ça se termine comme ça. Mais je me dis, des gens qui écoutent et qui regardent des choses imprégnées de cet esprit-là, jour après jour, hein, Mais c'est extraordinaire. J'ai demandé une fois à un jeune, j'ai dit, tu connais ça? Il m'a dit, ouais, je connais. Je dis, mais les paroles, oh, il me dit, oh, je sais pas, j'ai pas bien fait attention. Oui, et c'est vrai, on peut comme ça l'écouter, enfin, ou le subir sans trop faire attention. Mais même si on fait pas attention, il y a rien à faire. Ça passe quand même toujours un peu. Et il y a comme une espèce d'effet de désespérance. Hein. Un des paramètres de notre société aujourd'hui, c'est le pessimisme, c'est le désespoir. Alors, en même temps, paradoxalement, en même temps, on n'a jamais eu autant d'humoristes. Il n'y a jamais eu tant de gens qui essayent de faire rigoler les autres. Ben oui, parce que ben c'est devenu tellement nécessaire, vous voyez, alors ils font du fric avec ça. Mais et puis les gens sont tellement tristes que quelque part, c'est peut-être un peu plus facile qu'avant, et ils en ont plus besoin, mais c'est très paradoxal. Et je me dis, mais nous qui avons reçu la joie, nous qui avons reçu la paix de Dieu, mais ça nous éclaire des choses comme ça avec une lumière. C'est tellement le contraste est tellement fort, c'est extraordinaire. Je me dis mais moi j'aurais pu aussi passer des jours comme ça ou des soirées à écouter des trucs comme ça pour finir complètement stone. Je me souviens quand j'étais étudiant, je peignais les bandes blanches sur les routes, les passages piétons, les terrains de basket, tout ça, les trucs pour faire un peu de sous quand j'étais étudiant, quoi. Hein. Mais des fois, on faisait des soirées, et bon, qui duraient un peu longtemps. Et pour être sûr d'être au boulot le lendemain matin, parce qu'on commençait il fallait être à 6h, on commençait à 5h, 6h, je sais pas. Je me disais, mais si je vais me coucher chez moi, jamais j'arriverai à me relever pour être au boulot. Alors, je garais la voiture devant la porte du patron. Comme ça, quand il sortait, il était obligé de me trouver là, il secouait la voiture, on se réveillait, on partait au boulot, quoi. Mais c'est une pente, quoi, où on descend toujours, toujours. Alors, ok, un clip comme ça, ça concerne une certaine population et ça concerne pas tout le monde. Il y a des tas de gens qui regardent ça, qui se disent, mais ça, moi, ça me dit rien, je connais pas ça, j'ai jamais vécu comme ça et ça me dit rien non plus. Oh, et c'est vrai, puis quelque part, tant mieux pour vous. Mais on peut être malheureux et privé de bonheur et être dans d'autres techniques de fuite, dans d'autres techniques d'échappatoire de la vie sans qu'elle soit aussi caricaturale que celle-là. Il y a d'autres façons d'essayer de s'échapper, d'autres façons d'essayer de s'étourdir, de se divertir. Le divertissement, le philosophe Pascal disait que l'homme a besoin de divertissement, l'homme naturel, l'homme inconverti, parce qu'il a besoin d'échapper constamment à cette confrontation avec Dieu. Si l'homme n'a pas quelque chose qui lui permette d'échapper, alors il est en face de Dieu, il est confronté à la nécessité de décider ce qu'il fait devant Dieu. Alors plutôt que ça, il essaye de se divertir. On voit aujourd'hui comme le divertissement est devenu quelque part presque la pièce maîtresse de notre société. Et ça peut être des choses tout à fait légitimes. Là, bien sûr, dans cet exemple-là, on a quelque chose qui paraît outrancier, dont on voit vraiment le côté négatif et destructeur. Ok. Mais on peut se divertir de la nécessité de rencontrer Dieu en s'enfonçant, par exemple, dans le travail à 100%, en faisant tous les jours le plus possible pour être abruti de fatigue le soir et puis ne plus jamais penser. Alors ça paraît socialement, c'est mieux reçu, mais c'est aussi une autre façon d'échapper. Le plaisir, vous voyez, je pense que la notion de plaisir, hein, ici, hein, le chanteur dit « alors on danse » et puis voilà, on essaye de se faire plaisir. Le plaisir, Quelquefois, on a eu un préjugé par rapport au plaisir en pensant que la Bible, la parole de Dieu, est contre le plaisir. Comme si Dieu était un petit peu anti-plaisir, comme si Dieu aimait pas le plaisir, comme si Dieu n'aimait pas qu'on soit content. Comme si Dieu aimait nous restreindre, hein. Et en comparaison, tout ce qui fait plaisir, c'est quelquefois les gens qui connaissent pas vraiment Dieu ont l'impression que tout ce qui fait plaisir, c'est interdit. La philosophie, une certaine philosophie de ce monde, c'est 1 Corinthiens 15:32, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Évidemment, si quelqu'un n'a aucune aspiration pour l'éternité, et si il est persuadé qu'il n'y a rien après, alors il se dit, puisque de toute façon la vie est complètement, comme la vie est un non-sens, comme elle est ridicule, alors à ce moment-là aussi aucune morale n'a de prise sur lui, alors faisons-nous plaisir, éclatons-nous, et puis après, on finit en cendres, et puis voilà, il reste plus rien du tout. Mais c'est un préjugé. La Bible ne conduit pas à l'ascétisme. Peut-être qu'elle a été lue quelquefois comme ça au cours des siècles par des commentateurs qui ont cru la lire comme ça et qui ont propagé une certaine philosophie où pour être un bon chrétien, il aurait fallu dormir par terre, s'habiller avec un sac et manger seulement les pelures des pommes de terre. Et puis quoi encore, je ne sais pas. Enfin, tout ce qui est désagréable. Mais la parole de Dieu ne parle pas comme ça. La Bible ne parle pas comme ça. Moi personnellement, quand j'ai été confronté à l'Évangile, ça m'a pris un temps avant de me décider à vraiment rencontrer Dieu, à vraiment laisser Jésus entrer dans mon cœur. Ça m'a pris du temps parce que j'hésitais, parce que je pesais, parce que j'étais pas sûr, parce que je me disais, Jean-Marie, est-ce que tu vas pas y perdre au change? C'est sûr que dans ma vie, il y avait des tas de trucs qui me pesaient, qui étaient lourds, que je trouvais, dans lesquels j'étais pas bien. Mais j'avais aussi l'illusion que certaines choses me procuraient du plaisir. Alors c'est comme si j'essayais de faire un petit peu la balance entre les deux, et je me disais, mais si je donne ma vie à Jésus, tout ce que j'aime aujourd'hui, ça va être défendu. Et il va falloir que je fasse toutes les choses dont j'ai pas envie. Alors je me disais, la vie chrétienne, si c'est une vie triste, hein, moi j'ai pas envie d'une vie triste. Moi, j'aime rigoler, j'aime être content, quoi. Et s'il faut vivre tous les jours une vie triste ou nette, hein, et rien que ça, c'est un détail, mais ça m'a fait hésiter un bout de temps, hein. Un bout de temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu me donne? Est-ce que Dieu me donne plus que ce qu'il me prend? C'était une très mauvaise approche. C'est un très mauvais calcul. Mais quand on connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas le vrai Dieu, eh bien, on fait des tas de calculs comme ça, des calculs qui sont complètement idiots et complètement étrangers à toute la pensée de Dieu, mais on fait des calculs comme ça. Et j'avais le sentiment que, en me convertissant, je serais surtout face à toutes des séries de t'as pas le droit, de t'as pas le droit, t'as pas le droit, ça c'est défendu, touche pas à ça, mais tu dois faire ça, allez, à genoux. Alors, je voyais le coup comme ça, vous voyez. Mais je disais, mais faut être fort pour se convertir. Et c'est le contraire. C'est parce qu'on n'est pas fort qu'on se convertit. C'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on a besoin de Dieu qu'on vient vers lui. Si Dieu venait chercher surtout ceux qui n'ont pas besoin de lui, vous voyez, ça n'a pas de sens. Mais Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Imaginez un gars qui dirait, moi je vais chez le médecin que quand je vais bien, comme ça je suis sûr du diagnostic. C'est insensé. Ça ressemble à rien. Mais Dieu aime le plaisir. J'aimerais qu'on relise ensemble deux, trois petits passages dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, je ne sais pas si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste souvent, si c'est votre livre, un de vos livres favoris dans la Bible. Voilà, c'est un livre qui est à la fois un peu philosophique, qui contient des passages d'une poésie très raffinée, très fine. Et c'est aussi un livre très réaliste, un livre d'observation et un livre très optimiste. Parce que c'est un livre qui présente la vie telle qu'elle est. Et l'Ecclésiaste dit, dans la vie, il y a des tas de choses difficiles, mais Dieu a envie que tu te fasses plaisir. Dieu aime ton bonheur. Par exemple, un passage au chapitre 3, les versets 12-13. J'ai reconnu, dit l'Ecclésiaste, qu'il n'y a de bonheur pour eux, pour les hommes, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Voyez, la source de sa joie, de son bonheur, le fait de pouvoir manger, boire et se réjouir, c'est un don de Dieu. Dieu aime ton plaisir. Dieu aime notre joie. Dieu aime notre bonheur. Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a pas créés pour nous contraindre, pour nous mettre sous des jougs, pour nous mettre dans des espèces de prisons morales, théologiques, pour nous empêcher. Non, Dieu aime. Dieu est content. Quand il voit qu'un de ses enfants est va bien, alors Dieu est tout content. Il dit, et l'Ecclésiaste dit, je reconnais que ça, la joie, le bonheur, la jouissance de toutes les choses de la terre, c'est Dieu qui le donne, c'est un don de Dieu. Chapitre 9 encore, les versets 7 à 9. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Bon, avec modération, hein, on n'a pas dit, hein. Car, non, parce que j'en entends penser déjà. Il dit, ah bon, super. Non, non, attendez. N'arrivez pas à des conclusions, hein. Préconçu. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Dieu aime l'amour. Dieu aime même que nous ayons du plaisir physique, du plaisir dans le couple, du plaisir à table. Dieu aime que nous soyons bien. Dieu aime notre bonheur. C'est un don de Dieu. C'est lui qui veut ça. La Bible n'est pas contre le plaisir. Dieu n'est pas contre ça. Peut-être que pour certains, je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau ce soir, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Dieu a envie que tu ailles bien. Dieu a envie que tu sois heureux. Dieu a envie que tu puisses sauter de joie. Il y a un passage dans la Bible qui parle des veaux qui sortent de l'étable en sautant. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça, si vous avez jamais vu ce spectacle, ben c'est dommage, parce que c'est vraiment un truc. Moi, ça m'a marqué quand j'étais gamin. Parce que il y avait chez mon oncle, il y avait des petits veaux, et comme c'était en montagne, il faisait bien froid, alors ils étaient gardés bien sûr au chaud dans l'étable. Et puis le premier jour où ils étaient assez grands, forts pour les sortir, et puis qu'il faisait pas trop froid, alors on essayait de les faire sortir. Mais le gaillard, il voulait pas sortir parce que c'était tout d'un coup un monde nouveau. Tout d'un coup. Lui ne connaissait que la pénombre de l'étable. C'était un monde où il y avait très peu de lumière. Quand on l'amenait vers la porte, tout d'un coup, la lumière l'éblouissait. Pendant quelques instants, il voyait plus rien du tout. Il était tout ébloui. Deuxièmement, dans sa petite pièce, il était toujours à température constante. Une bonne douce chaleur tranquille. Tout d'un coup, quand on ouvrait la porte et qu'on l'amenait devant la porte, il sentait un courant d'air qui lui remontait sous les jupes. Là, il était saisi. Ça lui faisait froid. Il était paniqué. Et d'autre part, son monde était borné à quelques mètres autour de lui. C'est des repères. C'est tranquille. C'est sécurisant. Et tout d'un coup, quand ses yeux s'habituaient à ce qu'il voyait, il voyait plus de limites. Mais il était angoissé. Le veau, il veut pas sortir d'abord. On lui mettait une corde et puis il fallait le tirer. Il voulait pas. Il était complètement terrorisé. Il faisait deux pas dehors, on le tirait dehors. Et puis il restait là comme ça en tremblant. Et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, il s'enhardissait, et l'instinct aidant, il mangeait un petit brin d'herbe, il se disait, tiens, l'herbe fraîche, c'est pas mal non plus. Et puis petit à petit, et tout d'un coup, quand il comprenait qu'enfin il avait accédé à la liberté, alors d'un seul coup, sans crier gare, il se mettait à courir, à sauter. Mais il était maladroit, parce que dans son petit enclos, il pouvait faire que 2 mètres dans un sens, 1 mètre dans l'autre. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de limite. Alors il gambadait, mais on aurait dit que comme quelqu'un qui est un peu... Hein, il allait d'un côté, de l'autre, il sautait comme ça, et puis il commençait à faire des cabrioles à sauter. Mais c'était un ravissement à voir. C'était un ravissement. C'est comme quelqu'un qui découvre la liberté. Avant, il croyait qu'il avait du plaisir dans sa vie, et c'était une vie minable. Avant, il était dans une toute petite vie, avec 2 mètres d'un côté, de quoi aller du bistrot chez le marchand de tabac, et une toute petite vie ridicule, une toute petite vie sombre, sans lumière, sans vraie vie, sans air frais, sans liberté, et il fallait le tirer pour le sortir dehors. Mais quand les gens commencent à comprendre qu'ils étaient en fait en prison et que tout d'un coup, on les amène à l'extérieur, que tout d'un coup, en Jésus, ils découvrent la vraie lumière, qu'ils découvrent le vrai oxygène, qu'ils découvrent la vraie nourriture, qu'ils découvrent que le monde est plus comme ils croyaient, que tout d'un coup, ils se mettent à sauter, à courir, à gambader. Mais alors, dans l'église, c'est joli de les voir, les gens comme ça. Tout d'un coup, je n'ai pas dit que vous êtes dévots, hein. Non. C'est une allégorie. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique quand la vie de Jésus rentre dans ton cœur. Hein. Et c'est seulement quand tu es dehors que tu sais encore mieux à quoi tu as échappé. C'est seulement quand tu sors de la prison que tu peux comprendre les dimensions qu'elle avait. Avant, tu croyais que tu étais bien. Mais moi, j'avais de la peine, je me disais, mais si je me convertis, il faudra plus que je fasse ci, il faudra plus que je fasse ça. Et il me semblait que ça m'arracherait quelque chose. J'étais bête. Je croyais que ça m'arracherait quelque chose. Et c'est seulement quand j'ai commencé à abandonner ces choses, que tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est maintenant que je devenais libre. Hein, et qu'avant, j'étais esclave. Dieu aime notre bonheur. Dieu aime ta joie. Dieu dit, va, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Jésus ne s'est pas comporté de manière ascétique, mais Jésus était maître de lui. Quand il voulait manger, il mangeait, quand il ne voulait pas, il ne mangeait pas. Il a jeûné au début de son ministère, il a jeûné 40 jours. Ça, c'est la démonstration de quelqu'un qui est maître de lui. Mais Jésus était capable de répondre aux invitations qu'on lui faisait, souvent de fois. Comme on disait dans le temps, et dans les évangiles, eh bien, il a été invité chez des gens qui avaient des moyens et qui préparaient des grands, des bons repas. Eh bien, Jésus y est allé. Mais il n'a pas joué les... Oh, non, donnez-moi seulement 2 petits pois. Non, il a mangé. Non. Il a mangé, normal. Il a bu un verre de vin. Alors du coup, les gens qui étaient seulement religieux, mais pas libérés, parce qu'on peut... Attention. Vous pouvez être religieux et esclave, hein. Vous pouvez croire en Dieu et être esclave. Alors, au temps de Jésus, il y en avait beaucoup comme ça. Des esclaves religieux. Alors eux, ils étaient choqués. Ils disaient, vous regardez, vous avez vu? Et ça se dit enseignant, ça? Ça se dit rabbi? Hein? Un type qui mange, il en a même repris 2 fois. Eh ben, alors du coup, ils l'ont appelé glouton, ils l'ont appelé buveur, etc. Mais parce que c'était des gens qui eux-mêmes n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient dans une connaissance de Dieu qui était totalement erronée. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu qui est tellement bon. Le vrai Dieu qui est tellement plein de désir de nous, le désir de nous faire plaisir, le désir de nous libérer, le désir de nous faire sortir en plein soleil. Bien sûr, le plaisir a des limites. Je ne suis pas en train de parler d'une espèce de théorie qui dirait que pour être bien, il faut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, ça sous-entend aussi souvent avec qui on veut. Et c'est pas ça que je veux dire, parce que le plaisir a ses limites. Et une des limites, c'est que quand il prend la maîtrise sur vous, vous n'êtes plus en train de vous faire plaisir, vous êtes, j'allais dire, vous êtes en train de faire plaisir au plaisir. Vous êtes son esclave, vous êtes son jouet. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour être libres, mais la liberté et l'indépendance, c'est pas la même chose. Trop de gens aujourd'hui convoitent de la liberté et ils n'ont pas donné le bon mot à ce qu'ils désirent. Parce que c'est pas la liberté qu'ils désirent, ce qu'ils recherchent, c'est la capacité, la possibilité de faire tout et n'importe quoi en tout temps, y compris si ça fait du mal à ceux qui sont autour d'eux. Donc le plaisir a des limites. Et ces limites, elles sont celles qui correspondent à ce qu'est la nature de Dieu. Et le plaisir a des limites à ce qui est bien pour ceux qui nous entourent. C'est pour ça que quel que soit le plaisir que quelqu'un peut espérer entrevoir, par exemple dans une relation extra-conjugale, eh bien ce plaisir n'est pas un plaisir, c'est une chaîne que la personne va se ficeler autour d'elle-même, parce que dans ce cas-là, ce plaisir est une arme qui se retourne contre les gens de sa famille et ceux de la famille aussi de l'autre côté. Non, le plaisir a des limites, et il a des limites quand on n'en est plus maître. Chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est pourquoi, paradoxalement, le plaisir peut devenir une machine à détruire. Dieu nous veut heureux, mais d'un véritable bonheur. Pas d'un bonheur fait de quelques sensations qui se succèdent les unes après les autres. Le bonheur n'est pas une accumulation mosaïque de petits plaisirs. Le bonheur est la réalisation bienheureuse de ce que Dieu a fait de nous dans sa présence. Et atteindre ce bonheur-là, comme le dit l'Ecclésiaste, est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il nous faut, dans notre rapport avec le plaisir, il nous faut être sûr de ne pas devenir dépendant, et il nous faut être sûr d'aimer réellement notre prochain. C'est-à-dire plus le bonheur de celui et le plaisir de celui qui est en face de nous, avec nous, à nos côtés, plus que de désirer le nôtre. Quand on cherche seulement son plaisir, eh bien on est dans une course, dans un cercle fermé, on est dans une espèce de cercle vicieux qui se retourne sur soi-même et le nœud se resserre toujours davantage. C'est pourquoi la charité est le centre des relations de dans le christianisme, parce que c'est la recherche du bonheur de l'autre. Et c'est évident que si chacun cherche le bonheur de l'autre, tout le monde va être servi. Mais pas servi par soi-même. Servi par les autres. J'ai trouvé un petit reportage qu'on a vu avec Brigitte un soir à la télé dans l'émission de 7 à 8, là, celle où on est passé sur TF1 l'autre jour. Et alors, peut-être vous avez vu ça, c'est un monsieur aux États-Unis qui est un alpiniste, un sportif, un alpiniste chevronné, quoi. Et il faisait du trekking dans un canyon dans l'Utah. Et puis, voilà qu'à un moment, il descendait dans une espèce un peu de cheminée rocheuse. Et il lui restait quelques mètres avant d'arriver en bas. Mais il n'a pas pris garde que le rocher sur lequel il était en fait en équilibre entre les deux parois. Et au moment où il a sauté, le rocher s'est détaché et est venu sur lui. Alors il a mis les mains pour se protéger comme ça. Et au moment où il a mis les mains, alors le rocher s'est coincé entre les deux parois, mais en coinçant sa main. Et il a essayé de se dégager, mais c'était un bloc qui faisait des tonnes, et sa main était coincée comme ça, et il était incapable de pouvoir, du rocher, incapable de se dégager. Il était dans un endroit où il était lui-même, il avait laissé sa voiture, était à, je crois, 11 kilomètres de là, au bout de l'endroit. C'est un endroit, c'est le désert. Il n'y a personne, personne ne passe et personne ne passera. Et au bout de quelque temps, le monsieur comprend qu'il va mourir là. Il va mourir là parce qu'il est prisonnier de sa main. Il a résisté, il a essayé de faire tout ce qu'il a pu, et finalement, et puis alors c'est dans un endroit où la nuit la température tombe autour de zéro à peu près, le jour très très chaud, la nuit il grelottait, évidemment au bout de très peu de temps il avait fini son petit sandwich, et il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire, plus la douleur, etc., la déshydratation, la blessure, sa main qui finirait par se gangréner, etc. Et alors au bout de 3-4 jours, il a compris que la seule solution pour lui, c'était de couper sa main. Non, c'est une histoire horrible, hein. Mais c'est une histoire de vie, hein. Une histoire réelle. Donc le monsieur a compris qu'il ne pouvait s'en sortir qu'en coupant sa main. Il avait avec lui dans sa poche un canif, style MacGyver, ouais. Et donc il a décidé de se couper la main. Et c'est ce qu'il a fait. Quand on regardait ce témoignage, je dis mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Eh bien, en tout cas, je sais pas si tout le monde peut, hein. Mais en tout cas, lui, il a pu. Et après, et l'os, on coupe pas un os avec un canif, hein. Et il a dû faire des tractions sur son bras jusqu'à ce que l'os casse. Et il faut couper les nerfs. Il disait, mais quand je coupais les nerfs, c'est comme si un coup de chalumeau remontait. Et l'homme, il a fait un garrot, et il a coupé. Et après, il a dû faire encore, c'était le cinquième jour, hein, il est resté en tout cinq, un peu, un, en tout, ça avait un peu plus de cinq jours. Et après, il a dû encore marcher jusqu'à l'endroit où il pouvait rejoindre sa voiture ou un brin de civilisation. Ça fait il y a 7 ans maintenant. Il a une espèce de crochet à la place du bras. Et depuis, le gars a refait de l'alpinisme. Il a fait je ne sais pas combien de sommets. Il fait parce que c'était un bon alpinisme, hein, et alpiniste. Et il a refait je ne sais pas combien des sommets des plus de 4000 là-bas dans la région. Il en a fait je ne sais pas combien depuis qu'il a qu'un bras, hein. Ils ont fait un film avec lui, tout ça. Quelques années après, il est retourné sur les lieux avec quelques personnes et il a donc retrouvé le squelette de sa main au même endroit, bien sûr, sous le rocher. Mais je regardais cette histoire, je dis, mais ça, c'est incroyable. Vous voyez, moi, j'avais souvent lu, quand Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. J'ai toujours lu ça. Et puis c'est juste, on lit ça comme une... c'est un langage symbolique, on est bien d'accord, hein. Et j'aurais jamais pensé qu'une fois quelqu'un puisse être amené à effectivement expérimenter un tel acte, à faire une telle chose. Mais cet homme l'a fait. Pourquoi? Parce que pour survivre, il fallait qu'il coupe sa main. Il a dit, mais sinon je meurs. Et il a coupé sa main pour survivre. Et Jésus dit, pour survivre, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il ne s'agit même pas de survivre dans ce monde, il s'agit de survivre dans l'éternité. C'est ça le vrai problème. Ce monsieur, et quelque part moi je me suis dit, ce monsieur est comme un signe. Il est un signe de Dieu au milieu d'une génération, qui est esclave d'une certaine approche du bonheur, d'une certaine approche du plaisir. Et lui, il a dit, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, il faut couper pour survivre. Jésus dit, il faut couper, fais gaffe, il faut couper. Moi, j'ai trouvé cette histoire extrêmement pédagogique. Ça m'a retourné. Bien sûr, quand on l'écoute, la question que chacun se pose, on se dit tous, mais est-ce que moi, je pourrais faire un truc pareil? Franchement. Mais je suis sûr que si on lui avait demandé à lui un peu avant, il aurait dit non aussi. Seulement, alors quelques-uns diront, bon, c'est l'instinct de conservation, etc. Et c'est pas faux, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est Matthieu 5, 30, c'est, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle avec une main qui te manque, parce que de toute façon, Dieu va te la redonner, que d'avoir tes deux mains et de te précipiter en enfer. Donc, il y a des choix. Ce que je veux dire ce soir, c'est que le projet que Jésus nous a mis devant nous, ce que Jésus a mis devant nous, c'est un choix qui est un choix extrêmement dramatique. La vie chrétienne n'est pas un choix de vie, c'est pas un choix culturel, c'est pas un choix de commodité. Ce que Jésus a apporté, c'est pas entre guillemets, c'est pas seulement de dire voilà le comment tu peux être béni. Hein, connais Dieu, connais le bien comme il faut, mets-toi bien avec lui, tu vas voir, il va te bénir. Non, c'est pas ça. C'est un changement, c'est une transformation totale et c'est une transformation qui coûte. Qui coûte, il y a à perdre, c'est-à-dire il y a à perdre, il y a à renoncer. J'aimais bien ce monsieur a dit à la fin, il dit évidemment, ça on comprendrait, il dit, je ne regrette pas d'avoir fait ça, ça on comprendrait bien, ça lui a sauvé la vie. Mais il dit même, je ne regrette pas d'avoir dû le faire. Ah, ça j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Parce qu'il dit, cette expérience m'a beaucoup appris sur moi-même, sur la vie, sur ce qu'est le monde, sur les valeurs, sur... Il dit, je suis beaucoup plus moi-même maintenant que je ne l'étais pas avant. Et dans ce sens, il dit, je ne regrette pas d'être passé par ce moment terrible. C'est seulement quand on commence à comprendre où sont nos chaînes, et quand on commence à les briser par la force de Dieu, c'est seulement à ce moment-là qu'on comprend d'où on sort. Et on ne le regrette jamais. Tant que vous êtes dans les chaînes de fausses connaissances, tant que vous êtes dans des chaînes de servitude, d'esclavage, de péché, de fausses connaissances, de distance avec Dieu, toutes ces chaînes à briser semblent douces, elles semblent nécessaires. Et c'est seulement quand on les a, quand on regarde en arrière, quand on les a rompues, qu'on se dit, mais c'est maintenant seulement que je suis libre. Je raconte souvent que quand j'étais dans cette période où j'hésitais à donner ma vie à Jésus, avec des amis, on n'était pas toujours très honnêtes, quoi. Bon, Et alors j'avais un ami qui m'avait ramené, il faisait un peu des arnaques, quoi. Alors il m'avait ramené j'avais chez moi une grosse platine, à cette époque c'était les platines magnéto, cassettes, mais là c'était un gros truc, c'était le début du Dolby et tout ça, pour l'époque c'était cool, hein. Et alors, donc j'avais eu ça pour, je sais pas, enfin bon bref, c'était une histoire de chèque, enfin. Et alors, je me disais, par exemple, ce truc-là, pour moi, était devenu comme ça cristallisait un peu mes choix. Je me disais, mais si je marche avec Jésus, je peux pas garder ça. Mais d'un autre côté, j'en ai besoin. Enfin, j'en ai besoin, ça me fait plaisir. Il y a longtemps que j'en avais envie. Maintenant, je l'ai et il faudrait que j'y renonce. Oh, c'était difficile. Et puis, une fois, quand je me suis décidé, alors un jour, le gars, mon copain, est passé. Dès que j'ai vu que c'était lui, je dis, attends, bouge pas, il était encore sur le paillasson, bouge pas. J'ai été prendre le truc, je lui ai remis dans les bras, je lui ai dit, je veux plus, j'ai plus, je marche plus dans tout ça, je marche plus dans les combines, je ne vole plus, c'est fini. Alors l'autre, il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a pensé que j'avais, fait un mauvais trip, hein. Alors il est reparti comme ça, et puis dès que j'ai fermé la porte, j'ai senti une joie qui remplissait mon cœur. Jusqu'à 5 secondes avant, j'étais sûr que j'avais fait un sacrifice et que ça me coûterait et que vraiment c'était difficile. Mais dès que ça a été fait, j'étais content. J'avais plus ce truc. C'est tout d'un coup que j'ai compris que ce machin-là était pas un plaisir, c'était une chaîne. Mais je ne pouvais le comprendre, c'était une chaîne, que quand j'y avais renoncé. C'est seulement quand tu décides de renoncer aux faux plaisirs que tu comprends qu'ils étaient tes ennemis. Mais tant que tu n'as pas coupé, tu es sous la séduction. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi Jésus dit, quelquefois, des choix que nous faisons, des choix de vie, nous les percevons comme une amputation. Ça nous paraît comme renoncer à certains traits de caractère, renoncer à certains péchés. Ça nous paraît comme si on nous arrachait un morceau de nous-mêmes. On dit, mais si je devais renoncer à ça, mais je serais plus moi. Ben, voilà, justement. Mais justement, c'est là que Dieu veut t'amener à devenir quelqu'un d'autre, pour que tu naisses de nouveau, pour que tu rentres dans une nouvelle identité, pour que tu sois enfin ton vrai toi, celui que Dieu a créé, celui qui va pouvoir être plein de bonheur, celui qui va recevoir sa part de joie, parce que c'est la part que Dieu te donne. Et tu pourras jouir de la vie en sachant que c'est Dieu qui te la donne. Et ce qui est un peu marrant, j'ai trouvé, c'est que ce monsieur s'appelle, son prénom c'est Aaron. Alors je me suis dit, je ne sais pas s'il était prédestiné avec un nom pareil à faire des sacrifices, hein. Mais écoutez-moi, le grand sacrifice, c'est pas celui que nous faisons nous. Ça, aux yeux de Dieu, c'est comme nos petits sacrifices. Mais Dieu a fait un grand sacrifice. Dieu a fait le grand sacrifice. Dieu a donné son Fils. Et il n'a pas donné, lui, il n'a pas donné pour survivre. Dieu n'a pas donné son Fils pour survivre, lui. Il l'a donné son Fils pour que nous survivions. Dieu a fait un vrai sacrifice qui est un sacrifice de salut pour ceux qui croient en lui. Je sais que cette notion est difficile pour certains. Je sais que c'est une notion qui choque. Les gens disent mais mourir sur une croix, c'est une infamie, c'est ignoble. Mais écoutez-moi. Quand quelqu'un donne sa vie pour, par exemple, sauver quelqu'un, vous passez devant une maison, la maison brûle, vous entendez un enfant qui pleure. Quelqu'un va se jeter dans les flammes. Il se jette dedans pour aller sauver l'enfant. Il a le temps de sortir. Il tend le bébé à la première personne qui est là-dedans. La poutre du truc, tac, il laisse sa vie là. Il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'on dit de cet homme? Il est mort pour sauver quelqu'un. Est-ce qu'on dit que c'est ignoble? Est-ce qu'on dit que c'est une infamie? Est-ce qu'on dit que c'est une honte? Est-ce qu'on dit que c'est horrible? Mais chacun va, on ne saura pas comment tarir d'éloges devant ce sacrifice. Jésus a donné sa vie pour que nous survivions dans l'éternité. Dieu savait qu'il n'y avait pas de moyen autre que le péché qui devait être châtié. Nos péchés, le tien, le mien, les nôtres, les péchés devaient être jugés. Il devait être puni et personne ne peut faire ça. Alors Dieu a dit, je vais le faire sur moi-même. Dieu a dit, je vais le faire sur moi-même. Et c'est la gloire de Dieu, la croix. La croix est la gloire de Dieu. La croix est la gloire de Dieu. La croix, c'est le sacrifice que Dieu a fait sur lui-même, pas pour survivre lui, pour que nous vivions avec lui dans sa présence pendant l'éternité. Bien sûr, le christianisme est difficile à comprendre, parce qu'il ne se comprend que de l'intérieur. C'est seulement quand vous êtes dedans que le voile s'en va et que Jésus vous apparaît dans sa gloire. Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus veut te délivrer de tes chaînes. Jésus veut te délivrer de tes chaînes. Jésus veut aujourd'hui que tu puisses recevoir cette vie, qu'elle coule en toi, que son sang précieux lave tes péchés, que tu puisses recevoir la vie éternelle et que tu puisses être marqué de son sceau pour aller dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'un chemin pour aller dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas nos sacrifices à nous qui fabriquent un chemin pour aller vers le ciel, mais c'est celui que Dieu a fait lui-même, et nos petits sacrifices sont seulement pour rompre les chaînes qui nous empêchent de nous engager sur ce chemin. Mais c'est Dieu qui a tout fait. C'est seulement sa grâce. C'est seulement un cadeau. Quand on dit qu'on est sûr d'aller au ciel, c'est pas de la suffisance. C'est seulement parce que quand on a reçu un cadeau et qu'on est content de l'avoir reçu, et bien on est content de l'avoir reçu, c'est tout. Moi, je suis sûr d'être sauvé, mais voilà, mais je me mets pas dans la course pour savoir qui est le meilleur d'entre nous, qui est le pire. Et on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce prix, il a été remporté parce que ce cadeau nous a été donné à chacun gratuitement. Personne ici n'a aucun mérite. Mais comme on l'a reçu, on est content de l'avoir reçu. Alors on le montre, on dit, j'ai reçu un cadeau. Voilà. Si tu le veux, tu le prends aussi. Tu n'as rien fait non plus. Quand Jésus est mort, il y a 2000 ans, tu n'étais pas né. Alors tu vois. Mais quand même, Dieu nous l'a donné. J'aimerais finir avec un passage dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez, dit Jésus, par la porte étroite, parce que large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui prennent ce chemin qui mène à la perdition. Entrez, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi cette porte est étroite? Elle est étroite volontairement de la part de Dieu, parce qu'elle nous oblige à nous débarrasser pour entrer des choses fausses, des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, des choses qui nous embarrassent, des choses qui nous encombrent, des choses qui ne sont pas de la nature de Dieu. Alors Dieu a mis une petite porte pour qu'on soit obligé de laisser tout le reste et de rentrer seulement avec la vie que Dieu a mise au-dedans de nous. J'aimerais ce soir vraiment peut-être dire à quelques-uns ce soir, je voudrais vraiment vous dire, celui qui a tout fait pour que vous receviez ce salut, pour que vous alliez au ciel, celui-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ça veut pas dire que Dieu aurait dû avoir un fils avec une femme. Le mot fils, c'est un mot qui est encore plus glorieux que ce qui désigne la génération biologique. C'est quelque chose de plus grand encore. Il est le Fils de Dieu parce qu'il était en Dieu, il est la parole de Dieu, il est sorti de Dieu. Et même si la parole de Dieu se manifeste dans une incarnation humaine par la puissance même de Dieu, il n'y a pas pour autant de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est devenue chair. C'est Dieu, c'est sa parole. Quand on parle de Jésus, Jésus a dit de lui-même, il a dit, mais le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit, nous sommes deux, adorez-nous tous les deux. Nous sommes un. Et c'est ce Père qui s'est donné lui-même dans la personne de son Fils pour nous sauver. Mais c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau, c'est tellement la réalisation de l'amour qu'on ne peut pas imaginer. Aucun homme n'aurait jamais imaginé un tel plan, mais c'est notre salut. Alors je voudrais dire ce soir, peut-être pour quelques-uns, ces choses vous apparaissent comme peut-être encore un peu théorique, doctrinal, mais je vous en supplie, ne les écoutez pas comme des idées, n'écoutez pas parler de Jésus comme une idée de bien, mais parlez-lui, laissez Jésus entrer dans votre cœur, dites-lui maintenant, Jésus, entre dans mon cœur, Jésus, je crois, je sais que tu as souffert pour moi. Je veux être sauvé. Je veux entrer dans la vie éternelle. Donne-moi la force. Parce qu'il y a des choses que je dois couper qui me paraissent tellement douloureuses. Mais si tu m'aides, alors je vais le faire. Nous allons prier un instant et puis je demanderai à Sam de continuer. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de ce que ta grâce puisse se répandre sur nous ce soir, dans les cœurs de chacun. Ta, Seigneur, nous voulons te remercier. Tu es tellement bon, grand. Oh Seigneur, merci pour ce plan merveilleux. Merci pour ce plan merveilleux. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, vraiment ce soir, hein, sont maintenant là, tout de suite, sur le point d'ouvrir leur cœur pour que tu rentres dans leur vie. Merci parce que, Seigneur, tu vas le faire et parce qu'ils vont entrer dans la vie éternelle maintenant. Merci, Seigneur. Hein. Amen.
Restons dans la prière. Ce soir, je voudrais tellement vous inviter à être comme ceux, comme la description de ce veau qui sort de cet endroit tellement sombre, où il pensait tellement bien, et qui découvre la liberté. Recevez cette liberté en Christ. Il ne s'agit pas d'adhérer ce soir à une église, ou d'adhérer à une association quelconque. Il s'agit d'une rencontre, et d'une rencontre personnelle. Personne ne peut se substituer à vous. Personne ne peut sortir à votre place. Le veau doit sortir lui-même. Personne ne peut le faire à votre place. Vous ne goûterez pas la liberté en regardant les autres qui sont libres. Vous la goûterez en devenant libre vous-même. Ce qui a été dit, il a été tellement parfaitement que chacun de nous peut s'en emparer maintenant et prendre une décision personnelle. Pendant que nos yeux sont fermés, je souhaiterais vraiment prier pour les personnes qui le désirent, qui désirent faire ce pas, qui désirent lui dire « Oh Dieu, oui, viens dans ma vie. Oh Jésus, viens dans ma vie. » Et même si je ne saisis pas encore forcément tout, ou si je n'ai pas tout compris, mais ma vie, je veux te la donner. Pendant que nos yeux sont fermés, si quelqu'un le désire, je voudrais vraiment prier pour vous. Vous levez simplement votre main là où vous êtes et vous la baissez. Et ensuite, nous prierons. Votre main levée signifiera simplement « Je veux ». Oui, madame, que Dieu vous bénisse. Oui, madame. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Oui, vous pouvez baisser votre main. Vous pouvez baisser votre main. Je ne veux pas insister parce que, voyez-vous, recevoir la grâce qui vient de Dieu et recevoir la grâce du sacrifice accompli par Jésus à la croix pour nous, c'est un cadeau. Jésus n'est pas venu quémander en disant « S'il te plaît, non, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien recevoir ma grâce ?» Non. Il est venu l'offrir à celui qui la désire, qui dit « Oui, je le veux. » Dieu ne se prosterne pas devant nous pour que nous acceptions son projet. Dieu nous le propose. C'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres, entre ceux qui disent « Oui, je le veux. » Ceux qui disent « Non, je préfère rester comme le veau là dans son étable. » Ce soir, s'il y a encore quelqu'un, votre main levée signifie « Seigneur, je le veux. » Et ensuite, nous prierons. Et ensuite, nous prierons.